Europe 1. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1.
Pendant un an, de mai 1885 à mai 1886, les plus éminents psychiatres vont se presser au chevet de Madame Émilie Lombardi, internée à l'hôpital Saint-Antoine de Genève. Pendant un an, ces sommités de la médecine et de la psychiatrie vont tenter de répondre à une question, à une seule question. Madame Lombardi est-elle folle, oui ou non? Et plus précisément, était-elle folle dans la nuit du 1er au 2 mai 1885, où jouissait-elle, comme on dit, de toutes ses facultés mentales? Pour établir un diagnostic, psychiatres et médecins vont multiplier les interrogatoires et les examens de toutes sortes. On note les réflexes de Madame Lombardi. On mesure sa sensibilité à la température, ses réactions à la douleur. On prend les dimensions de son crâne. On examine attentivement ses pupilles. On ira même jusqu'à faire des recherches sur son hérédité. Une minutieuse enquête du docteur Koss, professeur de médecine légale à l'université, portera sur 212 personnes ascendant direct de la famille de Madame Lombardi. Des commissions d'experts sont nommées. Des mémoires contradictoires paraissent. On en comptera 8 en tout. Mais les psychiatres n'arriveront pas à se mettre d'accord. Du fond de son lit, Madame Lombardi remarque à peine toute cette attention dont elle est l'objet. Elle répond aux questions. Elle se prête d'assez bonne grâce aux examens. Mais visiblement, elle est ailleurs, très loin, dans son passé. Elle revoit son enfance, ses deux mariages, et puis cette fameuse nuit du 1er au 2 mai 1885. Les premiers souvenirs qui se pressent dans la mémoire de Madame Lombardi, alors qu'elle est allongée sur son lit d'hôpital, sont des souvenirs d'enfance, une enfance difficile. Elle a 7 ans à la mort de sa mère. Je vois encore cette affreuse journée. Je vois mon père, mes grands-mères, toutes ces femmes désespérées. Triste souvenir. Je ne me souviens d'aucune caresse maternelle, encore moins de caresse paternelle, car mon père a fait ce que font tous les hommes seuls. Il s'est mis à fréquenter la bouteille. À 7 ans déjà, on comprend que l'on est abandonné. Émilie, la future Madame Lombardi, est élevée par sa grand-mère. Les fils de celle-ci la maltraitent. Alors elle vient travailler à Genève, où elle passe son adolescence. Elle trouve une place chez un oncle qui la paie peu, mais la bat souvent. Elle s'en va. Elle trouve d'autres places, travaille comme domestique. Elle a à peine 20 ans quand elle fait la connaissance de Balédier, son premier mari. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Veuf, il a déjà 2 enfants. C'est un mariage de raison. Elle l'épouse parce que de tous les hommes qu'elle a connus, c'est le seul qui ne la bat pas. En plus, il est sobre. Ce sera une vie à deux, sans drame, mais sans passion. En 1875, Balédier meurt. Émilie se retrouve seule. Elle a 22 ans. Un an plus tard, en 1876, elle fait la connaissance de Joseph Lombardi. Et là, c'est le coup de foudre. Il est grand, énergique, bien de sa personne, c'est un tailleur, il a un magasin dans le vieux Genève, rue de Coutances, et le mariage est célébré le 27 janvier 1877. Un long voyage de noces à Paris, une lune de miel sans nuages, pour la première fois de sa vie, Émilie est heureuse. En mars, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte. Son bonheur ne connaît plus de bornes, d'autant qu'elle croit lire dans les yeux de son époux une joie égale à la sienne qui l'aide à supporter les nombreuses petites souffrances de la grossesse. Mais cette entente idyllique entre les deux époux ne va pas durer très longtemps. Oh, ce sont d'abord des petits incidents, des disputes banales, qui émaillent le quotidien. Mais tout cela dégénère. Car la véritable nature de Joseph Lombardi se révèle au fil des semaines. C'est un violent, un brutal. Pour un rien, il frappe, surtout quand il a bu. Et c'est qu'il boit beaucoup, le Lombardi. Alors, pour un rien, les soufflets, les gifles, les coups s'abattent sur la pauvre Émilie. De plus, la mère de Lombardi, la belle-mère donc d'Émilie, suit de très très près les affaires du ménage. Et elle prend en toutes circonstances le parti de son fils, bien sûr. Elle a difficilement accepté ce mariage avec une fille du peuple qui n'apportait pas un centime dans sa dot. Alors maintenant que le mariage est fait, elle se venge. Elle jette de l'huile sur le feu. Elle excite encore davantage la colère de son fils. Le 11 janvier 1878, Madame Lombardi met au monde un fils. Le souhait de toute la famille. En ces jours de fête, le bonheur semble à nouveau régner dans la maison de la rue de Coutances. Mais il dure peu. Les conflits reprennent. La belle-mère veut confier l'enfant à une nourrice. Émilie veut le nourrir elle-même. Elle a gain de cause. Je voulais avec mon fils ramener la brebis qui s'égare, dira-t-elle plus tard. La brebis, c'est bien sûr le mari. Mais le mari, la bouteille le gagne lui aussi. Il passe toutes ses soirées au café. Mon Dieu, patience, tout cela va changer, se dit Madame Lombardi. En août 1878, elle est de nouveau enceinte. Nouvelle dispute avec la belle-mère qui vient lui faire des remontrances. « Enfin, c'est stupide. Vous allez vous ruiner la santé et vous ruiner tout court. » La jeune femme répond, « Quand j'en aurai fait 10 comme vous, je m'arrêterai. » Le mari, furieux de cette réponse, lui fait une scène, la gifle. Le 12 avril, c'est le samedi de Pâques, nouvelle scène, nouvelle violence. Il lui donne des coups de pied dans le dos et dans le ventre. Elle souffre quelques heures, comme pour mettre un enfant au monde, dit-elle. Le 23 avril, elle donne naissance à un fils. Les scènes de brutalité continuent. On dit que l'amour est aveugle, écrira plus tard Madame Lombardi. Il y avait devant mes yeux un voile qui m'empêchait de voir que cet homme était une bête féroce. Non, je ne voyais rien. Mais peu à peu, les yeux de Madame Lombardi vont s'ouvrir. Et, malheureusement, les occasions ne vont pas manquer. En septembre de la même année, elle trouve, en fouillant dans un tiroir, un acte de vente signé par son mari. Il concerne le magasin qui appartient aux parents de Lombardi et que les jeunes époux ont décidé de racheter. Elle s'aperçoit avec stupeur que le prix de vente est supérieur de 15 000 francs suisses à la somme convenue et que son mari a signé sans même lui en parler. Je ne voulais pas lui faire le soir même des observations, mais je me sentais des frissons dans tout le corps. Le lendemain, elle tombe malade. Elle se plaint à sa belle-mère. « Vous profitez de votre position pour influencer mon mari et pour nous soutirer de l'argent, avouez-le. » Le mari entre dans la chambre. Il revient du café un peu éméché. Sa mère. « Dis donc, tu donnes tes clés à ta femme quand tu t'en vas, bougon d'imbécile. Alors c'est comme ça que tu te laisses mener. Elle a osé me faire une scène, ta petite femme. » Elle en dit tant et tant que le mari s'approche d'Émilie avec à la main ces immenses ciseaux de tailleur. Je vais t'ouvrir le ventre.
Mais oui, vas-y, elle le mérite, hurle la belle-mère.
J'avais mon petit que je nourrissais sur mes genoux. Quand je l'ai vu approcher avec ses ciseaux, j'ai été prise de frissons. J'ai posé mon petit par terre, j'ai pris mon banc que j'avais sous les pieds et je l'ai lancé à la figure de mon mari. Et puis je me suis pendue à ses cheveux comme une bête féroce. Je ne me reconnaissais plus. Il a cru sans doute que j'avais un accès nerveux car il ne m'a pas donné de coups.
Sa mère lui disait, « T'es trop bon, si j'étais à ta place, je lui couperais les reins en deux. »
Moi, j'ai repris mon petit et je suis monté à l'appartement. Ce genre de scène se reproduit de plus en plus souvent. Dans la famille, Madame Lombardi n'a qu'un allié, le père de son mari. Jusqu'à présent, il l'a toujours défendu. « Tu bois trop, » dit-il à son fils. « Tu as de beaux enfants, tu as une femme qui t'aime. » Elle fait bien marcher le commerce. Tu devrais rester chez toi plus souvent, ta femme te gâte. Et tu ne t'en rends même pas compte. Malheureusement, le vieux Lombardi ne fait que de rares apparitions au magasin et ses conseils resteront sans effet. Madame Lombardi tombe malade, une grande fièvre, elle délire. Elle a des accès de folie. C'est en tout cas ce que lui diront son mari et sa belle-mère.
« Vous êtes folle. Le docteur a dit que vous étiez folle. Un jour, il faudra vous interner. » À peine guéri, les scènes de violence reprennent. Le fils aîné, le petit Pierre, prend des coups lui aussi et est si violent qu'il tombe malade. On le place tout l'été en pension chez une tante. Le 21 septembre 1880, Madame Lombardi accouche d'une fille, Joséphine. Nouvelle grossesse en 1881, naissance d'un garçon, Eugène. La famille s'agrandit, mais les rêves de bonheur s'éloignent de plus en plus. Le 10 avril 1882, un certain Dimier est jugé et condamné à Genève. Il avait tué sa femme d'un coup de revolver. Les journaux parlent abondamment de l'affaire. Quelques jours plus tard, Joseph Lombardi rentre chez lui, furieux comme d'habitude. Il appelle sa femme. Devant elle, il verse un cornet de munitions dans un revolver qu'il fait tourner dans ses mains. « Regarde, tu vois ? Je le charge. C'est pour faire le dîmier. » La pauvre Madame Lombardi est paralysée d'épouvante. « Je ne savais que faire. J'étais en train de donner le sein à mon petit Eugène. Je me suis senti des frissons des cheveux jusqu'au dessous des pieds. J'étais blotti sur ma chaise comme une hébétée. Il s'avança. J'allais, je crois, m'évanouir. » Les scènes de revolver, comme on les appellera, durent plusieurs jours, pendant lesquels Madame Lombardi, plus morte que vive, n'ose plus venir coucher à la maison. Une voisine intervient. Lombardi promet qu'il ne tuera pas sa femme. Mais les menaces, les injures et les coups continuent. J'ai à peine le temps de descendre l'escalier, mon petit Eugène dans les bras, qu'il me place le revolver sous le menton. Ah, les ciseaux ne t'épouvantent pas, les coups ne te font rien. Eh bien au moins, il faut ça pour te faire marcher ou crever. En 1883, Lombardi parle de divorcer. Elle lui répond qu'elle y est disposée quand il le voudra. Mais attention, je suis la mère et je veux les quatre enfants. Alors on en reste là. En mars 1884, elle découvre que son mari entretient une maîtresse. Il lui écrit des lettres en cachette. Au mois de juin, comme chaque année, il y a un bal sur la place Grenu. Émilie veut danser. Son mari la chasse à la maison. Elle redescend bien vite et elle le voit danser avec Adèle B., sa maîtresse. Quelques jours plus tard, à bout de nerfs, épuisée, découragée, elle se rend chez son beau-père pour lui demander aide et protection. Et c'est un échec. C'est pire qu'un échec. Car le vieux Lombardi ne l'écoute pas. Sans qu'on sache pourquoi, il a pris le parti de son fils. Et il bat Émilie lui aussi. C'est plus que la jeune femme n'en peut supporter. Quelques jours après, elle fait une fausse couche, dans d'affreuses souffrances. Je n'ai jamais su avec quoi il avait pu me battre. Car j'avais été battu pendant toutes mes grossesses. Mais ça ne m'avait jamais mise dans un état pareil. Pendant que sa femme est au lit, malade, le mari néglige son commerce. Il ne pense qu'à courir au rendez-vous que lui donne sa maîtresse. Dans le magasin, les traites s'accumulent et ne se paient pas. On ne trouve le patron nulle part quand il y a un client à servir. C'est encore Madame Lombardi qui doit se lever et s'occuper des clients, ce qui provoque une hémorragie 8 jours après sa fausse couche. Le médecin l'envoie à la campagne pour se remettre. Elle revient au mois d'août. Elle va immédiatement chez sa rivale et se fait rendre les cadeaux et les lettres que Lombardi lui avait envoyées. Quand elle rentre chez elle, elle trouve son mari effondré, qui pleure à chaudes larmes. « Pardonne-moi, je t'en supplie. C'est elle qui est une coquine. » Mais les jours suivants, Madame Lombardi s'aperçoit que les lettres et les rendez-vous continuent. Le 27 janvier, c'est l'anniversaire de leur mariage. Le soir, il lit son journal. Elle lui demande en plaisantant ce qu'il va lui offrir. Elle essaie de l'embrasser. Lombardi la repousse et sèchement... « Oh, il y en a d'autres qui se sont mariés depuis nous. »« D'autres ?» Lombardi pense sûrement au mariage d'Adèle B., sa maîtresse. Ce mariage le rend encore plus violent. Il ne se contente plus de battre le petit Pierre, ni de l'insulter quand il revient de l'école en le traitant de bon à rien. Maintenant, il bat indistinctement sa femme et ses quatre enfants.
En face de ces persécutions quotidiennes, Madame Lombardi va de plus en plus mal. Elle souffre d'atroces migraines. Une douleur si violente qu'elle ne peut plus porter de chapeau, avec parfois la sensation d'une boule qui la serre au cou et qui l'étouffe. Mais quand elle se plaint, il la traite de folle et menace de la faire interner. Et dans cette famille qui va à la dérive, le chagrin, la mélancolie de Madame Lombardi gagne du terrain jour après jour. Elle dit « J'ai commencé à prendre du noir avec une telle rapidité. C'était comme une brûlure sur laquelle on verse du vinaigre et du sel. » Depuis le mois de février, nous sommes en 1885, Madame Lombardi ne travaille pratiquement plus. Moi qui gagnais auparavant 70 francs par mois en cousant pour le magasin, je ne peux plus toucher une aiguille. Je parviens à peine en me forçant à recoudre par-ci par-là un bouton aux habits de mes enfants. Chaque fois que je suis seul un moment, je pleure. J'ai de l'ennui, un noir affreux. Je ne peux plus tenir en place. Je sors souvent sur le trottoir. Je me promène sans but devant le magasin. On a dû le remarquer. La nuit, je fais des cauchemars. Je rêve que je suis morte. Ces idées de mort, elles reviennent de plus en plus souvent. Le jour aussi, après chaque scène de violence. Comme tous les matins, j'essuyais l'extérieur et l'intérieur du magasin dans des réflexions impossibles. La mort. À tout prix, la mort. Je pris une caisse pour l'épousseter. Et puis, derrière cette caisse, je vis une corde. J'attire cette corde à moi. Ah, voilà le bonheur pour ton mari. Tu l'embarrasses. Les enfants embarrassent parce qu'ils coûtent trop cher. Alors ce soir, tu vas sur Saint-Jean. Tu les attaches tous les quatre, avec toi au milieu. Tu t'enfonces dans le Rhône comme une vraie reine d'abeilles avec son rucher. À ce moment-là, les enfants descendirent l'escalier. Je les serrai contre moi. J'avais honte de ce que je venais de me dire. Lombardi s'enivre maintenant à tel point qu'il faut le coucher chaque jour à midi. Et nous arrivons à la journée fatidique du vendredi 1er mai 1885. Dès le matin, le mari va au café, il rentre pour faire des scènes aux enfants et à sa femme. Il donne un soufflet au petit Pierre, il tempête, il récrimine sur les dépenses, il fait le compte de tout ce que coûtent les enfants, ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils usent. L'après-midi, il continue. Il se plaint d'être seul pour entretenir un pareil ménage. Madame Lombardi se sent prise de maux de cœur. Le soir, épuisée, elle s'assied au fond du magasin et pleure abondamment. J'étais là, souffrante. Je me disais que vraiment, moi et les enfants, nous embarrassions mon mari. Elle soupe avec ses enfants, et puis elle les couche. Nouvelle dispute avec le mari, qui repart au café. Elle reste seule. Elle va et vient dans le magasin désert. J'ai pensé à ce moment-là que mieux valait mourir que de continuer à embarrasser mon mari. Mais les enfants, elle ne peut pas les lui laisser. Il serait capable de les abandonner, de ne pas les nourrir. Non, seul, il sera mieux. Et nous aussi, se dit-elle. Lombardi rentre, ivre mort. Il l'insulte. Nom de garce ! Espèce de traînée ! Elle est prise de convulsion. Ah, cette fois, je vois ce que tu cherches. Tu as envie que je te débarrasse. Autant ce soir qu'une autre fois. Tu coucheras seul, tu vivras seul. Et demain matin, tu seras débarrassé au complet. Vous avez profité de ma peau. Mais vous n'en profiterez plus.
Le mari. Tu peux faire ce que tu veux, ça m'est égal. Il y a dans la cuisine des lilas que les enfants ont cueillis le jour même au cours d'une promenade. Madame Lombardi prend les fleurs, elle monte dans leur chambre. Elle dépose un bouquet sur chacun des petits lits. Et puis, elle accomplit la promesse qu'elle vient de faire. Elle court prendre un rasoir et elle égorge successivement chacun de ses 4 enfants en leur demandant pardon. 3 mourront. Un seul, le cadet, survivra à ses blessures. Madame Lombardi lâche le rasoir. Elle tient à la main une bouteille de collyre qu'elle a trouvée dans l'armoire à pharmacie. Sur l'étiquette, il y a marqué « Poison » en grosses lettres. C'est la fin qu'elle s'est choisie. Elle l'avale d'un trait et elle tombe dans le coma. Une heure plus tard, le mari pénètre dans la chambre. Il est suffisamment lucide pour s'apercevoir de la situation et courir prévenir la police et les médecins. On parviendra à ranimer Madame Lombardi, mais c'est en pleine crise de délire qu'elle sera transportée à l'hôpital Saint-Antoine. Dans cet hôpital, elle restera une année en attendant son procès. Elle retrouve assez vite sa lucidité. On lui apprend qu'un seul de ses enfants a survécu à ses blessures. Elle regrette qu'il ne soit pas mort, comme elle regrette d'être elle-même toujours vivante. Que peut-elle espérer maintenant pour elle et son enfant? Elle est jugée en juin 1886. Pendant le procès, elle garde une attitude calme et indifférente. Jamais elle ne trahit la moindre émotion. La plupart des témoins confirment les misères qu'elle a subies. L'apparition de son mari à la barre, défaillant et hébété, abruti par l'alcoolisme, produit une impression pénible sur le public. Comme je vous l'ai dit au début de ce dossier, les médecins et les psychiatres ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur le cas de Madame Lombardi. Les uns, et ce sont les plus nombreux, estiment qu'elle a commis son crime sous l'influence d'un état mental pathologique qui lui a enlevé son libre arbitre. En d'autres mots, elle était folle, donc irresponsable. D'autres experts, une minorité cependant, prétendent qu'elle jouit de l'intégralité de ses facultés intellectuelles, donc qu'elle est responsable. Le tribunal penchera pour la première hypothèse, le jury admettra l'irresponsabilité de l'accusée, celle-ci sera acquittée, mais immédiatement internée dès la fin du procès dans un hôpital psychiatrique. Oui, c'est finalement à l'asile que les persécutions de son mari et de sa famille devaient conduire Madame Lombardi. Rappelez-vous, il l'avait menacée de la faire interner comme folle quelques années auparavant. Leur prédiction se trouvait réalisée. Pour conclure, je voudrais vous lire quelques lignes de la dernière lettre qu'a écrite Madame Lombardi quelques instants avant de tuer ses enfants et de tenter de se suicider. Cette lettre était adressée à une amie, sa seule amie. La voici. Genève, 1er mai, 8h30 du soir. Madame, je regrette de vous avoir causé tant d'ennuis, mais vous en auriez davantage si cela n'avait pas une fin. La journée a été si affreuse. Je ne puis attendre. Je ne suis point folle, mais rassasiée. Je me vois dans l'impossibilité d'aller plus loin. Et j'ai trop peur que mes enfants lui ressemblent. Émilie de Luermoz, femme du bourreau Joseph Lombardi. Post-scriptum. S'il vous plaît, mettez sur ma tombe femme martyre.
Venez d'écouter Les Récits Extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.